Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes en train d'étudier un livre qui est vraiment fondamental dans la parole.
Et
évidemment, c'est le livre de l'Apocalypse.
Et
nous étudions verset après verset. Parce que ce livre est absolument un livre qui est d'une richesse incroyable. Malheureusement, nous l'avons vu souvent, l'Apocalypse est vu comme une série de catastrophes. Mais ça n'a rien à voir. C'est un livre de la gloire qui est à venir. C'est un livre du royaume qui va être restauré et instauré sur la terre. Là où Dieu va pouvoir réaliser le rêve qu'il voulait faire avec Adam et
Eve.
Et en fait, Dieu voulait être tout en tous. Mais nous avons vu qu'Adam et Ève ont lamentablement échoué. Et Dieu a dû faire avec l'homme qui a péché. Et avec tout ce qui s'est passé sur cette terre. Toute cette rébellion de l'homme. Mais Dieu se prépare un peuple. Et ce peuple, c'est vous et moi, frères et sœurs. Ceux qui ont dit oui à son évangile glorieux. Ceux qui ont accepté de se repentir de leurs péchés. D'avoir foi. En celui qu'ils n'ont jamais vu. Mais un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous verrons tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse devant nos propres yeux. Que ce soit la gloire qui est réservée ici et que nous sommes en train d'étudier. Que ce soit tous les événements de la souveraineté de Dieu. Ces choses-là, nous les verrons avec nos yeux. Nous participerons à certaines choses. Pourquoi ? Parce que Dieu a prévu de nous donner toutes choses avec lui. Il nous a fait héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu, dit la parole. Et co-héritiers de Christ. Parce que Dieu est quelqu'un qui partage. Dieu aime partager. Si vous voyez Dieu comme celui qui partage avec vous. D'ailleurs, je vous dirais que le mot communion. Quand tu parles que tu as une communion avec Dieu. Tu dois comprendre en tant que partage. Dieu t'aime. Et il a voulu partager le royaume. Et nous avons vu dans l'Apocalypse un certain nombre de choses. Nous avons remarqué dans les trois premiers chapitres d'abord toute une introduction, pourquoi la révélation que Dieu donne à Jean, ce livre qui va clôturer la révélation divine pour l'homme, comment Jésus se révèle, Jésus glorifié se révèle à Jean dans une première vision et qui est suivi bien évidemment du message aux sept églises. Et nous avons passé environ une vingtaine d'heures, un peu moins, sur ces trois premiers chapitres. Et d'un seul coup, au quatrième chapitre, il va y avoir une autre vision. Jean, d'un seul coup, se trouve encore dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, c'est le monde de Dieu. C'est le monde que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Que tu ne peux pas entendre avec tes oreilles. Parce que c'est un monde qui est le monde divin. Le monde où Dieu est tellement réel, que les choses naturelles disparaissent devant toi. Et c'est ce que Jean a vécu dans ses visions. D'un seul coup, tout ce qui était dans le naturel autour de lui partait. Et il entrait dans une dimension, la dimension de l'esprit, la révélation de Dieu. Et ça, c'est très important. Parfois, ça se passe par des visions telles quelles. Sinon, ça se passe dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas forcément voir à ce moment-là, mais tu vas entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te révéler la parole. Il va te parler sur des situations. Ça, ce sont des choses que tu ne peux pas entendre avec tes oreilles. Tes oreilles de chair. Que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Tes cinq sens ne peuvent pas percevoir ce monde. Parce que tes cinq sens ont été pervertis, les miens aussi, à cause du péché. Parce que notre corps est voué à la corruption. C'est pour ça que des fois, quand je lis des commentaires sur ce livre de l'Apocalypse, des fois ça me fait mal parce que je vois que des gens veulent interpréter cela avec leur mentalité humaine. Ils n'ont pas fait certaines expériences dans l'esprit. Et ils mettent tout un tas d'interprétations. Ce qui fait qu'après, on en perd le sens réel, la dimension spirituelle. Et ceci est vraiment dommage. L'argent est dans un autre monde. C'est exactement là, dans cette deuxième vision. Comment Jésus va lui dire après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix, nous l'avons vue, certainement son ange gardien qui lui avait parlé dans le chapitre 1, nous avons vu ça, que j'avais entendu comme le son d'une trompette qui me parlait, me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et nous avons vu que la première vision s'était clôturée au chapitre 3. Jésus disparaît de devant Jean. Mais la deuxième vision va commencer et elle va être parsemée de plein d'autres visions. L'ange lui dit ce qui doit arriver dans la suite, dans le futur. C'est une troisième chose que nous avons remarqué. Oui. Ce qui doit arriver. Et là, nous avons vu qu'il y a la souveraineté de Dieu. Il y a des événements, et c'est pour ça que Dieu a marqué ces choses noir sur blanc dans ce livre. Des choses très précises qui vont se produire. À partir du moment où l'Église va être enlevée. Parce que ce que nous remarquons à partir du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église. L'Église n'est plus là. Et nous verrons que ça va être le déclenchement. L'enlèvement de l'Église va être le déclenchement de la tribulation. Et c'est là où on va voir les sept sceaux. Et nous verrons tout cela. Comment ça va s'organiser? Qu'est-ce que Dieu a prévu d'avance? C'est écrit pour que les pécheurs, quand ils le vivront, n'auront plus absolument aucune excuse. Soit ils se convertiront, soit ils iront dans le jugement éternel. Et personne n'aura d'excuse. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ces passages de l'Apocalypse. Beaucoup d'ailleurs qui sont morts, qui connaissaient très bien ces choses, mais qui les ont refusées. Mais certains les vivront, ceux qui seront dans la tribulation, comme nous le verrons. Mais avant cela, on voit verset 2, donc Jean est en esprit, complètement envahi par le Saint-Esprit. Il est pris par l'Esprit. Et il va se retrouver au troisième ciel. Et là, il va voir des choses absolument extraordinaires. Cette vision, il nous la raconte. Et nous avons commencé à rapprocher toutes les visions de la Bible. Parce que Jean va voir le trône. Mais là, on a le récit de cette vision. Comme nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part dans la parole de Dieu, nous avons une telle précision dans la vision de ce qu'il y a au ciel. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Parce que au chapitre 4, c'est vraiment la gloire qu'il y a dans le ciel. Des choses que tu vas voir le jour même où ton cœur va s'arrêter de battre. Où ton corps va rester sur cette terre. Et tu vas sortir de ton corps. Ton âme et ton esprit vont sortir de ton corps. Et tu vas voir ton corps en bas sur cette terre. Et tu vas monter dans sa présence. Tu verras exactement ça. Exactement. C'est exactement ce qu'il y a au ciel. Et nous avons regardé pas mal de choses. Bien évidemment, quand on parle du ciel ici, nous avons vu qu'on parle du troisième ciel. Nous avons remarqué ces visions, cette vision de Paul en parallèle dans 2 Corinthiens 12. Et dans 2 Corinthiens 12, Paul parle de choses qu'il a vu, mais qu'il a du mal à décrire, je vous le rappelle. Au verset 4, il dit bien qu'il fut enlevé dans le paradis. Le paradis, c'est ce qui est autour de la Jérusalem céleste. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et là, je vous ai expliqué que ce n'était pas une interdiction de la part de Paul de dire ce qu'il avait vu ou entendu.
C'est
pas ce que dit ce texte. Parce que je vous ai montré que, entre autres dans Éphésiens et entre autres dans la doctrine de l'Église, c'est Paul qui a reçu ces choses par révélation. Et il les a transmis à l'Église.
Aho bavuga ngo atemererwa kuvuga ntibisobanura ko yabujijwe kubivuga kuko uravye amanyefeso aravuga ibyo yabonye n'ibyo yigishijwe guhishurirwa.
Donc Paul ne dit pas c'est des choses que je n'avais pas le droit de dire, c'est des secrets que le Seigneur m'a dit et j'ai rien le droit de dire.
Urumva ngo ntavuze ngo namabanga ndanyegeje urumva nibinyegezwa sinshobora kubibabwira mwebwe ni muvyemerewe.
Non, mais il dit simplement que il y a des choses c'est difficile à exprimer. C'est difficile à décrire. Et c'est là où je vous ai montré quelque chose d'important. Ces hommes qui nous racontent les visions du ciel. On l'a vu avec Ézéchiel. Lorsqu'Ézéchiel voit le trône. Dans Ézéchiel chapitre 1, nous l'avons vu. Il dit, je vois des animaux. Et il essaye de les décrire. Et honnêtement, pour dessiner ce qu'il a décrit, il faut être fort. Pourquoi? Parce qu'il parle de roues les unes dans les autres. Il parle de Dieu partout, des yeux partout. Ils parlent qu'ils ont quatre faces.
Et
ils ont des ailes. Et puis ils ont l'air d'aller dans tous les sens. C'est difficile à décrire.
Et
nous allons voir en continuant la description que Jean fait du trône et autour du trône. Jean essaye. Vous savez, quand vous décrivez quelque chose, vous êtes obligé. Ça ressemble à ça et comme ça.
Mais
vous faites des comparaisons quand vous décrivez quelque chose. Mais il est quand même difficile parfois. Quand vous n'avez jamais rien, enfin, si vous n'avez jamais vu quelque chose de particulier, on vous le montre. Et après, vous en parlez à quelqu'un en disant, tu sais, j'ai vu ce truc-là, par exemple. Et vous essayez de le décrire.
Bah,
vous allez essayer de trouver des mots ou des choses que tout le monde connaît, que tout le monde peut comprendre. Parce que bah, vous essayez de décrire du mieux possible en faisant des comparaisons. Et c'est exactement ce qui se passe quand ils nous donnent des descriptions du ciel. Ils racontent ce qu'ils ont vu. Donc, Jean est en train de nous expliquer un certain nombre de choses. Nous l'avons vu aussitôt, donc, verset 3, celui qui était assis, il y avait quelqu'un qui était assis, bien sûr, sur le trône, et on a vu que la description de Dieu qui est assis sur son trône, dans l'Ancien Testament, nous l'avons très souvent. Et là, il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Verset 3. Et là, nous avons vu que ces pierres ont des couleurs. Ce sont des pierres précieuses, bien sûr. Le jaspe, ça a des couleurs violet, bleu, vert et cuivre. Sardoine, ça parle du rouge, orange et brun. Et l'émeraude, c'est vert. Et là, je vous ai montré quelque chose d'important. La Bible nous dit clairement que personne n'a jamais vu Dieu face à face. Et personne n'a déjà vu le visage de Dieu dans le ciel. Tout en pouvant revenir sur la terre et le décrire. Je vous rappelle que c'est des visions qui s'appellent être ravis en esprit. Par la puissance surnaturelle de Dieu.
Paul
a vécu ça, Jean a vécu ça.
Paul a vécu ça, a vécu.
D'autres ont vu le trône comme Ézéchiel. Comme Ésaïe. Et on a vu aussi que Daniel a une vision du trône. Je vous rappelle que la différence entre les visions de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Et
nous avons répondu en partie à certaines questions. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de foule autour du trône. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui mouraient et qui avaient la foi et qui attendaient le Messie descendaient dans le sein d'Abraham. Mais n'allait pas au troisième
siècle.
Donc, il n'y avait pas de foule autour du trône. Vous n'entendrez pas parler non plus de la Jérusalem céleste dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que Jésus, dans Jean chapitre 14, nous dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et je vais vous en préparer une. Donc, apparemment, Christ a créé la Jérusalem céleste lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au troisième ciel et qu'après il a libéré les captifs. Entre temps, apparemment, la Jérusalem céleste a été créée. Comme nous le verrons, autour du trône il y a 24 trônes. Et là aussi, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de description sauf Daniel dans la fin des temps. Il les a vus. Donc tout ça, c'est un peu pour vous montrer tout ce qu'il y a autour du trône. Alors nous étions en train de parler de Dieu lui-même. Et je vous ai montré quelque chose qui répond à certaines questions à propos de la Trinité. Parce que là, on voit qu'on parle de quelqu'un qui est assis sur le trône. Et on parlera un peu plus loin de l'Esprit Saint. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand on essaye de comprendre un peu avec notre intelligence, rappelez-vous, Dieu est un seul Dieu révélé en trois personnes. Mais la Bible nous dit, Jésus l'a dit à plusieurs reprises, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je vous rappelle, nous avons étudié ces textes la dernière fois. Il est parlé du Fils qui est dans le sein du Père, qui est venu nous faire connaître Dieu. Il est parlé du Fils qui procède du Père. Et apparemment, d'après ce qu'on peut comprendre,
c'est
que sur le trône,
nuko ku ntebe y'inganje,
le Père et le Fils sont un.
C'est n'umwana n'umwe.
Mais nulle part dans la Bible on voit que le Père sort de son trône.
Ariko nta namwe muri Bibiliya batwereka ko data ava ku ntebe y'inganje.
Par contre le Fils sort du trône.
Ariko umwana arava ku ntebe y'inganje.
Et le Fils est dans le sein du Père.
Kandi umwana ari mu gikiriza cyase.
Donc sur le trône.
Ku ntebe y'inganje.
Est assis le Père et le Fils.
Ku ntebe y'inganje hicaye
umwana. Ils font un.
Na data
baru. Dans la gloire.
N'umwe mu
bwiza. Et le Fils sort du trône.
Kandi umwana arava mu ntebe y'inganje.
Il est apparu plusieurs fois aux disciples.
Yari yeretse abigishwa inshuro nyinshi.
Le Père reste toujours sur son trône.
Data yamavye agiye ku ntebe y'inganje.
Le Saint-Esprit, la Bible va nous en parler juste dans les versets suivants.
Mu mirongo ikurikira baratubwira kuri impuhemu yera.
Maintenant, la question qu'on s'était posée et on n'avait pas encore fini cela, on va continuer.
Ikibazo twari twibajije tutari bwaheze reka tukibandanye.
À quoi ressemble Dieu?
Non, Imana isa gute.
Et nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image dans Genèse 1, versets 26 et 27, si on peut les réafficher, merci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent, mais à quoi ressemble Dieu? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il a une longue barbe blanche? Avec un gros bâton dans les mains? Non, rien à voir. La Bible va nous parler de certaines caractéristiques de Dieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous lui ressemblons. La Bible n'a jamais dit qu'il a créé les anges à son image.
Vous
voyez ici, il y a deux termes, ressemblance et image. Regardez bien ici. Il y a l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Image, ça va être la nature. La ressemblance, ben c'est simple, c'est à quoi ressemble Dieu et à quoi ressemble l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. On va parler de l'image d'abord. La Bible va nous montrer une chose. C'est que Dieu a créé l'homme en trois dimensions.
1
Thessaloniciens chapitre 5 verset
23
nous parle de ces trois dimensions. Et c'est très important de comprendre l'image de Dieu. Dieu a créé des niveaux différents dans la création. Dieu n'a pas fait évoluer la création. Où la création n'a pas évolué d'elle-même. Tous ceux qui parlent d'évolution au niveau de la science sont des menteurs et ce sont des choses sataniques. Et d'ailleurs, tout bon scientifique sait très bien qu'une cellule ne peut pas évoluer d'elle-même. Et rien pour que les cellules se reproduisent, il faut un environnement. Donc Dieu va nous dire dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc la Bible va nous parler de l'esprit, l'âme et le corps. C'est plus la personnalité ici. Et en fait, Dieu va nous montrer dans sa parole de quoi, quelle est son image. Dans le sens de nature. Dieu a créé différents niveaux, comme je le disais, dans la création. Par exemple, une plante C'est quoi? C'est une association biologique.
Igitegwa ni iki? Ni kuja hamwe kw'ibintu bikoze bikorana.
Qui fonctionne?
Bikabaho
avec des règles qu'on appelle génétiques.
Ibintu bifise ubuzima, bifise ukuntu
bigwira. Qui se reproduit selon son espèce.
Bifise ukuntu bigwira bihwanye n'imbuto zabyo.
Une plante ne parle pas.
Igitegwa ntikivuga.
Une plante ne peut pas adorer ni louer Dieu. Et faites attention, parce qu'il y a un verset qui nous dit que toute la création dit les louanges de Dieu. Ça
ne
veut pas dire qu'elle parle avec une bouche. C'est dans le sens de refléter la gloire de Dieu. Vous
ne
verrez jamais la lune dire « Oh Dieu, je me prosterne devant toi. » La lune. Non. Par contre, ça montre la grandeur de Dieu. Vous voyez une jolie pleine lune dans un beau soir là où il a fait un peu chaud dans la journée où il n'y a pas un
nuage.
C'est le soleil de l'autre côté qui va refléter sur la lune. Et tu es en pleine nuit et tu vois cela. Tu regardes les étoiles. Et nous sommes près de l'équateur. Ici à l'intérieur du pays, quand il n'y a pas de lumière du tout, tout autour, vous pouvez voir un monde étoilé. Absolument fabuleux. Dieu a mis ça pour faire beau. Mais ça,
ce
n'est pas vivant. C'est juste de la matière. Les plantes sont vivantes. Elles sont biologiques. Ensuite, Dieu a créé les animaux aussi. Je dis ensuite, je ne parle pas ici par rapport au temps. Je parle par rapport aux catégories ensuite. Le plus bas, je dirais, niveau de la création, c'est simplement les plantes. La création biologique. Avec un
corps.
Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les animaux.
Ils
ont un corps, mais aussi ils ont une personnalité. Tout à fait limité. Et cette personnalité limitée, vous la voyez bien. Un animal a des instincts, c'est-à-dire ils sont préprogrammés.
Il
se comporte toujours de la même façon. Par exemple, si tu trouves un petit léopard quelque part, un petit léopard. Quand il est tout petit, il sera tout mignon. Et tu pourras peut-être t'amuser à l'élever comme un chat ou comme un chien. Et tu vas trouver qu'il est tout gentil. Et tu penses, parce que tu l'as élevé, qu'il n'est plus sauvage. Sauf que peut-être un jour, tu vas terminer en brochette dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a des instincts. Il a des instincts. De l'animal sauvage. C'est préprogrammé tout ça. Un animal ne peut pas renouveler son intelligence. Parce qu'il est très limité. Dieu lui a donné certaines limitations. Dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il mange, etc., etc. Sa façon de se comporter, de se reproduire. Ensuite, Dieu a fait une catégorie bien supérieure. L'homme. Nous sommes les seules créatures créées à son image. Rappelez-vous, on parle de l'image ici. L'image, c'est la nature. C'est dans ce sens-là où Dieu a dit image. L'image étant la nature. Nous sommes de la même nature de Dieu, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. C'est comme ça que Dieu nous a créés, à son image. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 24. Jean 4, 24, la Bible nous dit clairement, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Baravuga ngo Imana ni impwemo, Imana ni impwemo kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemo no mukuri.
Donc, nous savons que Dieu est esprit, oui.
Turazi ku Imana ari impwemo ego.
Dieu nous a créé à son image, nous sommes aussi des êtres spirituels.
Yaturemye mu ishusho yawe muri kamere kawe natwe turi impwemo.
Nous sommes des êtres spirituels.
Turi impwemo natwe.
Vous savez, les anges
Bujya abamarayika
ont été créés bien avant le monde visible.
Baremwe kera mbere yuko isi iboneka iremwa.
Le monde matériel.
Mbere yuko isi fadika iremwa.
Parce que les anges sont du monde invisible.
Kubera yuko abamarayika bobo nabo mwisi itaboneka nabo mu kirere cy'impwemo.
Ce sont des êtres spirituels.
Ni byaremwe by'impwemo
qui sont à la ressemblance de Dieu. Mais qui ne sont pas selon son image.
Bisa n'Imana mugabe itari mu ishusho y'Imana.
Comprenez bien la différence.
Mugerageze gutahura ubudasa.
Les anges sont à la ressemblance de Dieu.
Abamarayika barasa n'Imana.
Mais ils ne sont pas à son image.
Ariko ntibari mu ishusho y'Imana.
Est-ce que vous comprenez la différence?
Sinzi ko muratahura neza
ubudasa. Nous sommes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu.
Twebwe twaremwe mu ishusho y'Imana kandi dusa n'Imana.
Quand des personnes ont vu des anges,
et
bien les anges ressemblent aux hommes qui ressemblent à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vois que vous êtes très pensif. Vous allez me dire, oui, sauf les chérubins. Oui, c'est vrai. Sauf les séraphins, oui, c'est vrai.
Uwambwira uti mugaba bakerubi, abaserafi, ego baratandukanye.
Mais les anges et les archanges
ariko abamarayika n'abakuru babo
sont pleinement à la ressemblance de Dieu.
Basa n'Imana.
Mais ils ne sont pas à son image.
Mugabo ntibakozwe ntibaremwe mu ishusho y'Imana.
Ils n'ont pas de corps.
Nta mibiri bagira.
Ils ont été créés en deux dimensions.
Baremwe bari mu ngingo zibiri bafise ingingo zibiri.
Esprit et âme, c'est-à-dire esprit et personnalité.
Impwemu bakongera bakagira n'umushaha.
Donc la Bible nous dit nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance.
Bibiliya itubwira ngo twaremwe mu ishusho y'Imana ngo duse nayo.
C'est clair, la Bible nous dit que Dieu est esprit.
Bibiliya itubwira neza ko Imana ari impwemu.
Dieu a-t-il une personnalité, une âme?
Mbega Imana yoba afise yoba ifise umushaha yoba ifise?
Bien évidemment. D'ailleurs, regardez, psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset
5.
La Bible va nous parler de l'intelligence de Dieu. Une personnalité, c'est quoi? C'est une intelligence, des façons de penser, donc. C'est une volonté. C'est aussi des sentiments. Tout ça, c'est l'âme. Les anges ont une âme. Parce que Dieu a une âme. Nous avons une âme aussi. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Il n'y a aucun être spirituel qui n'a pas d'âme. Esprit et âme, ça va toujours ensemble. Ça marche ensemble. Vous n'avez pas un esprit seul. Dans la création, les deux types d'êtres spirituels que Dieu a fait, invisibles et visibles, eh bien, ils ont obligatoirement une âme. Les anges ont une âme, mais ce sont des êtres spirituels aussi. L'homme est un être spirituel, il a une âme, mais aussi il vit dans un corps. Ça, c'est autre chose, c'est quelque chose en plus que Dieu nous a donné. Et tant que tu es dans ton corps, tu es cloué au sol ici.
Kandi ukicambaye umubiri uguma kuri
nosi. Tu es collé sur la terre.
Uguma kuri nosi.
La Bible nous dit notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite.
Umwami wacu arahambaye n'umunyenkomezi nyinshi ubwenge bwiwe nakabura rugero.
Dieu a une intelligence. Heureusement d'ailleurs. Elle a point de limite. Parce que je ne vois pas comment il aurait pu créer les cieux et la terre, comment il aurait pu être l'architecte de quelque chose d'aussi grand, magnifiant que les cieux et la terre. Comment il aurait pu amener ces choses-là à la réalisation s'il n'avait pas une intelligence sans limite. Les hommes cherchent et se mettent ensemble pour trouver quelques petites lois que Dieu a établies dans l'univers.
Abantu barakorana bakagerageza kwiga ngo bamenye amategeko Imana yashizeho mu kirere ariko aragendura isi.
Mais Dieu lui-même tout seul a fait ces choses-là. Il
ne
s'est pas rassemblé avec des millions de personnes pour dire comment nous allons faire pour mettre en place, pour étendre les cieux et créer la terre. Dieu tout seul a fait ces choses. Les a planifiées. Les a orchestrées. Et les a créés. Son intelligence est insondable. Dieu a une volonté. Romains 9, 19. La Bible nous dit, me diras-tu, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Nous savons tous que Dieu a une volonté, ça c'est clair. La volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Il veut des choses. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a une volonté.
Il
l'a pleinement exprimé dans sa parole.
Mais
Dieu a aussi une volonté qu'il te transmet par son esprit. Ensuite, Dieu a des émotions. Et souvent, les chrétiens se demandent. Dieu est sur son trône. Non, Dieu a des émotions. Dieu a des émotions. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Regardez le psaume 2, verset 4. Je vous donne juste quelques exemples, comme ça, ça vous permettra de fouiller dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, c'est des ennemis. Dieu a des émotions. Nous sommes créés à son image. Toi aussi, tu as des émotions. Tu as des émotions positives et des émotions négatives. Et tu dois sanctifier tes émotions. Vous savez, Dieu est en colère aussi. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Les émotions de Dieu sont parfaitement saintes et sanctifiées. Tu as été créé à son image. Ce qu'il y a, c'est que l'homme ayant été créé au départ à son image, le péché s'est introduit dans l'homme. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est des fois un peu difficile de comprendre certaines choses sur Dieu. Parce que d'abord, nous ne voyons pas le monde invisible. Donc nous sommes obligés de marcher seulement sur la révélation de la parole de Dieu. Et d'autre part, ce qu'il y a en nous, nos trois dimensions, ont été affectées par le péché. Dieu soit béni, le jour où tu es né de nouveau, ton esprit a été recréé. Mais ton âme, ta personnalité, elle a subi des destructions ou des non-constructions de certaines choses. Donc tu as des émotions positives, des émotions négatives, mais qui sont dues à, en fait, qui réagissent par rapport à différents paramètres.
Que
des fois tu contrôles et des fois tu ne contrôles pas. Mais Dieu, lui, sa personnalité est parfaite. Sa personnalité est parfaite. Sa volonté est parfaite. Ses émotions sont parfaites. Son intelligence est parfaite.
Et insondable.
Sans limite. Mais nous avons été créés à son image. Alors ensuite, on peut se poser la question. Dieu a-t-il un corps? Rappelez-vous, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est la nature. Donc les trois dimensions. Esprit, âme et corps. Parce que Dieu a un corps. Sinon je ne vois pas comment Dieu aurait pu nous créer à son image. Il aurait dit je vais faire des créatures supérieures à moi. Si Dieu n'avait pas de corps, eh bien il aurait fait des hommes qui auraient une dimension supplémentaire que lui. Donc nous serions par nature supérieurs à lui. Et ce n'est pas possible, bien sûr. Vous savez, l'homme, Dieu avait prévu pour lui quelque chose d'absolument fabuleux. Le péché a gâché le plan originel de Dieu. Mais l'Apocalypse est justement la restauration et l'instauration du plan originel de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, tu es en processus. La terre est dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement de l'Église. Pour tout ce qui est marqué dans le futur qui nous est réservé. Dieu nous a créés à son image. Esprit, âme et corps. Bien sûr, Dieu n'a pas un corps corruptible comme le tien et le mien. Mais il a un corps. Et là, nous allons étudier la ressemblance que nous avons avec Dieu. La Bible nous donne beaucoup d'informations là-dessus. Regardons ensemble. Il y a plusieurs passages. D'abord, bon, nous avons lu Ésaïe chapitre 6. On va relire ce passage parce que déjà c'est assez criant d'une manière générale, assez parlant. Ésaïe chapitre 6 au verset 1, où il est dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc gardez cela déjà en mémoire. Maintenant on va regarder Exode chapitre 33. Un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Exode chapitre 33. Va faire une expérience absolument exceptionnelle avec Dieu. Cet homme était Moïse. Moïse, nous dit la Bible, ça a été le plus grand des prophètes. Moïse commençait à se poser des questions. Parce qu'il entendait Dieu. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qui tu es exactement? La Bible nous dit, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse Exode 33, face à face, comme un homme parle à son ami. Un autre passage nous dit que Moïse voyait une représentation de Dieu.
Alors
il y a un moment dans la suite de ce passage, Moïse va être très hardi et va demander quelque chose à Dieu. Il dit l'Éternel, verset 17, l'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Et verset 18, Moïse va, il va demander quelque chose à Dieu. Il voit que Dieu est glorieux, il entend cette voix. Mais il veut en savoir plus. Il veut quasiment pouvoir voir avec ses propres yeux et toucher Dieu. Et là, il va lui dire, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire que je veux voir ta face, je veux te voir tel que tu es. Et Dieu va lui répondre quelque chose. L'Éternel répondit, donc répondit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Me voir face à face. Alors après, Dieu va faire quelque chose. C'est vraiment très difficile à expliquer. Mais qui va nous montrer certains principes, certaines choses. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alors quand il est dit l'Éternel, c'est Dieu le Fils avant son incarnation.
Guhoraho arongera aravuga ati heraba hari ha hantu hafi yanje na uzuhagarare ku gitandara iyo bavuze uhoraho kenshi bavuga uho ni umwana w'Imana mbere yuko yambara umubiri ngo aze kuba ku isi.
Alors ici au verset 22 il est dit quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé.
C'est
difficile d'expliquer un passage comme ça, non?
Dieu
lui dit, je vais te mettre dans un creux. Je vais te couvrir de ma main. Et regardez ce qu'il dit verset 23. Oh, il dit, je vais passer, ok. Et verset 23, il dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, ou tu verras mon dos, dans d'autres traductions, mais ma face, mon visage, ne pourra pas être vu. C'est étonnant comme expérience. Imaginez-vous Dieu qui vous dit, Steve, tu ne pourras pas voir ma gloire. Je vais te mettre dans le creux de l'estrade. Je vais te couvrir de ma main. Je vais passer. Et tu me verras de dos.
Wow.
Mais tu ne pourras pas me voir face à face. Il a fait une sacrée expérience ce jour-là.
Qui
l'a extrêmement marqué.
Parce
qu'il le raconte ici. La Bible nous dit au psaume 18, verset 25. On va lire le verset 9 et le verset 25. Donc psaume 18, verset 9 et verset 25. Il est dit, on lit un peu plus haut s'il vous plaît, le verset un peu plus haut. C'est 10 ou 9 dans certaines versions. Ça dépend. Alors verset 9 ou verset 8, ça dépend des versions. Il s'élevait de la fumée. Alors je vous rappelle, la fumée, c'est l'onction. Okay, je vous le dis et redis, ce n'est pas de la fumée de cigarette, ce n'est pas de la fumée de feu, c'est l'onction. De ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, et il en jaillissait des charbons embrasés. On parle de narines, on parle de bouche ici. Le verset suivant. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. On a loupé un verset, s'il vous plaît, excusez-moi. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous quoi? Ses pieds.
Kumurongo munane mu kirundi, gumwotsi upfunduka mu mazuru yayo. Umuriro uva mu kanwa kayo. Urayigiza. Amakara afatishwa nawo. Yandaza ijuru nayo nyene iramanuka. Umwiza w'umuzitanya wari munsi y'ibirenge byayo.
Donc ici verset 25 aussi.
C'est peut-être le 24 ngo nico catumye uhoraho anyishura ibikwiranye no kugororoka kwanje ibikwiranye no kutandura ibikwiranye no kutandura kw'amaboko yanje mu nyonga zawe mu nyonga ziwe.
Alors en fait on s'aperçoit d'une chose.
Ah rero Dieu
c'est que la Bible décrit des membres de Dieu. Bibiliya iri
kwitwereka yuko Imana ifite ibihimba byo muri.
Les pieds?
Ibirenge?
Il est assis sur un trône, il faut bien des jambes pour être assis.
Les pans
de sa robe remplissaient le temple.
On
parle de ses mains.
On parle
d'un visage. On parle de narine, on parle Dieu. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Tous les membres. Et la Bible nous dit que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Donc Dieu et nous sommes semblables. Nous lui ressemblons.
Tout ça, nayo.
Le jour où tu seras dans la gloire,
où
tu auras la grâce de le voir face à face, tu le verras entièrement. Je vous ai dit une chose. Tous ceux qui ont eu des visions du ciel, qui ont vu le Seigneur et n'ont jamais vu Dieu face à face, Dieu le Père face à face, dans toute sa gloire. La Bible est claire pour cela. Et elle explique pourquoi. L'homme ne peut vivre et me voir.
C'est-à-dire
dans toute ma gloire face à face. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous révèle sur Dieu.
Mais
rappelez-vous, nous sommes créés à son image, esprit, âme et corps. Et à sa ressemblance. Et quand on voit Jean qui décrit, on va revenir à l'Apocalypse 4, il nous parle de quelqu'un qui est assis sur le trône.
Et
il nous donne des couleurs.
Et
c'est pas simple. Apparemment, il ne voit pas son visage. Il décrit la gloire. Il va maintenant continuer dans sa description. Il dit qu'il avait l'aspect de jade, de sardoine, etc. Et après, directement, il ne nous décrit pas. Il ne nous décrit pas Dieu, parce qu'il ne voit pas face à face, je vous le rappelle. Nous sommes obligés d'aller chercher dans d'autres passages de la parole de Dieu pour comprendre à quoi Dieu ressemble-t-il. Ensuite, il va nous dire, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, l'arc-en-ciel a une signification. La Bible nous dit que le trône est environné d'arc-en-ciel, d'un arc-en-ciel. Et en fait, l'arc-en-ciel, c'est une très très belle image de quelque chose que Dieu va nous montrer dans sa parole. L'arc-en-ciel, c'est Dieu qui l'a placé et qui l'a voulu dans Genèse chapitre
9.
Genèse chapitre 9, du verset 13 au verset
16.
Du 13 à 16.
Et
c'est Dieu qui parle à Noé. Noé, bien sûr, il y a toute une image du salut. L'image du salut, c'est-à-dire que Noé, lui, c'était quelqu'un qui croyait dans les événements prophétiques sur la catastrophe, le jugement que Dieu allait envoyer sur la terre. Il était incompris dans sa génération. Dieu lui avait demandé de construire cette arche, cet immense bateau, qui est l'image, bien sûr, du salut. L'image du salut. Tous ceux qui sont montés dans l'arche, c'est-à-dire seulement malheureusement la famille de Noé, alors ils ont pu être sauvés du jugement qui arrivait. C'est Dieu qui a fermé la porte lorsque la famille de Noé est à l'intérieur et que tous les animaux étaient à l'intérieur. La Bible nous dit qu'à cette époque-là, seulement la famille de Noé marchait avec Dieu. Les autres ne voulaient pas marcher avec Dieu. Dieu envoie son jugement. Les hommes sont jugés. Ensuite, il va se passer quelque chose. Une fois que l'arche arrive, Noé descend, enfin les eaux descendent, Noé peut sortir de l'arche avec les animaux. Et Dieu va dire, j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Verset 15, et je ne me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Alors vous avez compris que l'arc-en-ciel est évidemment étroitement lié à quoi ? À l'alliance. Et en fait, l'arc-en-ciel nous montre que c'est Dieu est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui ne ment point, qui accomplit ce qu'il dit. Et l'arc-en-ciel est un phénomène naturel que nous connaissons, mais qui a bien sûr une très belle image. L'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est ? Vous savez que les arcs-en-ciel apparaissent dans le ciel, dans le premier ciel. Lorsqu'il y a quoi ? Il y a de la pluie, mais en même temps, il y a suffisamment de soleil. C'est-à-dire que le soleil vient. La lumière du soleil et traverse les gouttelettes de pluie et produit une très jolie lumière. Et en fait tout cela, bien sûr, c'est un symbole. L'eau étant bien sûr le symbole du Saint-Esprit. Et la lumière, bien sûr, c'est le symbole de la vérité. Et l'idée, bien sûr, de l'arc-en-ciel. Dieu est un Dieu d'alliance, mais qui transmet sa vérité. Écoutez bien ça, qui transmet sa vérité. Du ciel. Par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu que la vérité est transmise. Et Dieu est un Dieu d'alliance. La plupart des scientifiques considèrent que l'arc-en-ciel a cette couleur aussi.
Abashakashatsi benshi bavuga ko umuntu w'amazi ufise nawo nyene amabara indwi.
En fait, c'est la lumière que vous voyez qui semble être blanc entre blanche et jaune.
Nujya muco muhora mubona umenga harimo ibara
gisa. Qui se décompose.
Dusa n'umuhondo canke byera.
Différents tons de lumière.
Et
ils estiment qu'il y a 7 types de lumière qui sont décomposées à ce moment-là. Le chiffre 7 étant bien évidemment le symbole de la perfection divine. Donc, autour du trône, la Bible nous dit qu'il y a cet arc-en-ciel. Symbole immuable que Dieu est un Dieu d'alliance. Mais aussi un Dieu de vérité, de lumière qu'il transmet par son esprit. Et cette vérité, bien évidemment, est amenée à être révélée partie par partie. L'idée des couleurs. Ensuite, au verset 4, Jean va continuer. Donc, Apocalypse 4, verset 4. Et il dit, autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens. Si vous avez une traduction vieillard, je n'aime pas du tout cette traduction, ça fait vraiment penser à des vieilles personnes, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes.
Iyo ntebe yari ikikijwe ibyashuro Yohana 4 umurongo wa 4 iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24 kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicaye ko bambaye impuzu zera no mu mitwe yabo hari ibitsibo canke ibigori byiza hawo.
Donc on voit que autour de ce trône il y a 24 autres trônes.
Tubona rero ngo hijya no hino izi ntebe y'intebe inganje hari intebe 24 z'abakuru.
Mais il dit qu'il y a justement 24 anciens assis sur les trônes.
Ngo intebe 24 z'abakuru bicaye kuri zo ntebe.
Rappelez-vous d'une chose, il n'y a pas de vieillesse dans le ciel.
Aha anya haraba abibira zimwe zivuga ngo nabatama mugabo mwibuke ko mwijuru nta butama bubaye.
Tout ce qu'il y a dans le ciel est glorieux.
Ibiri mwijuru byose ni byicubahe.
Il n'y a pas de poussière.
Nta mukungu.
Il n'y a pas de maladie.
Nta ngwari bayo.
Il n'y a pas de vieillesse.
Nta busaza bubayo.
C'est pour ça que quand on parle des 24 vieillards dans certaines traductions, c'est pas des gens très âgés.
Nk'abantu usanga basobanura ngo abatama 24
kamera. Ça n'a pas de sens.
N'abantu bashaje 24 nta ntumbero bifise.
L'idée ici, c'est qu'on voit que ces 24 personnes qui ont une position d'autorité. D'autorité extrême. Puisque Dieu est sur son trône. Père et Fils sont un ensemble. Le Saint-Esprit va être représenté par 7 esprits. Il va y avoir l'arc-en-ciel autour du trône. Il va y avoir aussi les chérubins glorieux que nous allons voir qui gardent l'intégrité du trône, c'est-à-dire que personne ne peut venir prendre la place de Dieu. L'intégrité de qui est Dieu? De sa position de Dieu. Mais après, on voit. Il voit 24 trônes autour du trône. Et je vous rappelle que dans les visions de l'Ancien Testament, quand il voyait la réalité du trône, il ne voyait pas les 24 anciens et les 24 trônes. Seulement Daniel, parce qu'il va voir prophétiquement la fin des temps,
Daniel wenyene kubera ko yabonye mu buvugishwa ibihe bya nyuma.
Lui va voir.
Wewe yarabonye
des trônes autour du trône.
Intebe zikikuje intebe.
Mais il ne donne pas une description aussi précise.
Ariko ntavuga mu buryo butomoye
nk'uko. Ici, on voit qu'il y a 24 personnes qui ont l'air d'avoir une autorité extrêmement importante autour de Dieu.
Aha tubona rero abantu 24 bicaye ku ntebe z'ubukuru baboneka nk'abantu
bafise. Jean voit les choses telles quelles au moment où il vit sur cette terre, c'est-à-dire environ dans l'an 95 après Jésus, c'est-à-dire à peu près 60 ans après la résurrection de Christ. Donc il voit ces 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, image bien sûr de la pureté.
ngo bambaye impuzu zera bazicaye ko bambaye impuzu zera no kuvuga ngo ni gicapo cyukwera cyukwezwa
sur leur tête des couronnes d'or
ngo mu mitwe yabo hari ibigori byizahabu
et nous savons nous avions déjà discuté à propos des couronnes récompenses bien évidemment
turamaze kuvuga ku bijanye n'ibigori urugori no kuvuga cerekana impera impembo.
Alors nous allons chercher dans la parole de Dieu si Dieu nous donne d'autres informations sur ces 24 anciens. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans Apocalypse 19, à partir du verset
3.
Et là, c'est la fin vraiment, là où la fin de la tribulation. Dieu est vainqueur de tous ses ennemis. Et il va se passer quelque chose. Il va y avoir une scène céleste que nous étudierons un peu plus tard, bien sûr. Ils dirent une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles. Verset 4. Et les 24 anciens, et les quatre êtres vivants, ce sont les chérubins, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia.
Ngo rivuga ubugira kabiri riti Alléluia. Kandi uwo mwotsi wiwe upfunduka ibihe bitazoshira. Babakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana byagira kuri ya ntebe biti Amen, Alléluia.
Et il dit au verset 5, une voix sortit du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, en disant Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant a établi son règne.
Ngo ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu yemwe mwese abagurano bayo abayubaha boroshe n'abakomeye numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihanga.
Donc on voit dans cette scène céleste
muri ibi bintu biriko biraba mu ijuru batwereka
vraiment la fin des temps
tubona ibihe bya nyuma
on voit encore ces 24 anciens.
Tukabona abakuru 24.
C'est 24 anciens et les 4 êtres vivants.
Abakuru 24.
Alors regardons maintenant dans Matthieu 19.
Turabereka hamwe kandi Matayo 19.
On va regarder dans Matthieu 19.
Dusomere hamwe Matayo igice cy'19.
Et là on va voir un peu plus d'informations.
Aha turongera kubona ibindi twigishwa.
Matthieu 19 verset 27 à 30.
19:27 gushaka kuri 30.
Jésus va dire quelque chose à ses disciples. Alors Pierre, verset 27, prit la parole et dit « Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Parce que Jésus parlait, il est difficile. Enfin, les disciples disaient, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 28, Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, à la fin des temps, sera assis sur le trône de sa gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
Ngo buno Petero aramubaza ku murongo wa 27 ati mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira none tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye naho aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kuvyagwa ukundi gusha namwe muzokwicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli.
Donc Jésus promet quoi?
Yesu asezeranya iki?
Que les 12 seront assis ou ça sur 12 trônes.
Yuko bamwe 12 bazoba bicaye ku ntebe 12.
Ils jugeront les 12 tribus d'Israël.
Ngo bacire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli.
Luc 22.
Luka 22.
Verset 24 à 30.
Kuva kuri 24 gushika kuri 30.
Luc 22 verset 24 à 30. Il va y avoir une compétition qui va s'élever parmi les 12. Et Jésus va être obligé de régler les comptes. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Donc c'était une discussion entre eux. C'est qui le chef parmi nous? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. C'est-à-dire, en fait, il est en train de dire, les gens qui veulent du pouvoir vont s'arranger pour écraser les autres. C'est ça que Jésus disait au verset précédent. Il disait, ni plus ni moins, c'est très clair que les gens, dans la mentalité du monde, s'écrasent les uns les autres pour savoir lequel va être le plus haut par rapport aux autres.
Arababwira ati abami b'amahanga bayatwaza amanyama n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa barutungabore. Ariko aravuga ati mwisa abantu bagwanira ubutegetsi kugira ngo barabingene bakandagira abandi bashobore kuduga hejuru kandi kurushije.
Des gens se tuent pour prendre le pouvoir.
Abantu bakica kugira ngo batobore
ubutegetsi. Des gens se font tous les coups possibles et imaginables pour dominer.
Abantu bagategana imitego bakagiranira nabi kugira ngo bashobore kuganza abandi.
Et Jésus leur dit, ça c'est la mentalité du monde. En fait, il était en train de leur dire, vous êtes en train de vous bagarrer pour savoir qui est le plus grand.
Il était en train de leur
dire, mais vous êtes charnel. Vous êtes comme le monde là. Le monde se bagarre pour ça. C'est moi qui est le chef, non c'est toi. Non c'est moi. Non c'est moi. Les gens se bagarrent pour ça. Pour avoir des positions. Et Jésus donne le secret du royaume ici. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi, qu'il n'en soit pas de même parmi vous, pour vous, pardon. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne, donc qui dirige, comme celui qui sert. Jésus était un révolutionnaire. C'est très clair, c'est révolutionnaire ce qu'il dit.
Il
dit le monde se bat pour les positions. Vous, c'est pas comme ça, dans mon royaume, c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes sur la terre, le plus grand, c'est celui qui sait servir, selon mon cœur. C'est celui qui est capable de servir. Donc, que celui qui dirige doit être celui qui sert. C'est pour ça que nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Vous savez que ce mot dans le grec, c'est pas un mot très sympathique. C'est le mot doulos. C'était à l'époque les esclaves. Esclave. Paul dira, je suis esclave de Christ. C'est doulos, littéralement, en grec, ça veut dire esclave.
Vous
savez, dans ce monde, il y a des mentalités qui ont été complètement, je dirais, forgées à cause du péché. Le leadership est quelque chose qui a été voulu par Dieu.
Et
il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le leadership divin existe. Mais quand on parle de leadership, on voit le monde appliquer ses lois. Et tristement, nous voyons aussi beaucoup des mentalités du monde être dans ceux qui dirigent le peuple de Dieu. Et ça, c'est vraiment mauvais.
Vous
voyez, ils avaient cette mentalité du monde. Ils voulaient suivre le Seigneur, être spirituel. Mais ils étaient dans la mentalité du monde. Mais si Jésus part un jour, c'est qui le chef après? Pierre. Oui, c'est moi. Et Jean dira, non, c'est moi. Et Jacques dit, non, c'est moi. À tel point que même la mère de Jacques et de Jean un jour est venue auprès de Jésus. J'ai une requête à te faire, Seigneur. Je veux que, quand tu seras dans ton règne, elle prévoyait son coup à l'avance. Je veux qu'il y ait un de mes fils qui soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils vont te soutenir, Seigneur. Promets-le-moi. Comme tu es quelqu'un qui ne ment point, Seigneur, si tu me promets maintenant, j'aurai de quoi dire le jour où ça va se passer. Cherchez des positions.
Barondera ibiti ivyubahiro.
Et Jésus va leur dire non, que celui qui est plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne, qui dirige, comme celui qui sert.
Yesu arababwira ati umukuru nabe nk'umuto uganza nabe ukorera abandi.
Verset 27.
Murongo wa 27.
Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Umukuru ninde nukoregwa canke numukorera mbega sukoregwa ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nkubakorera.
Beaucoup de gens disent qu'ils veulent servir le Seigneur.
Abantu benshi baravuga ko bagomba gukorera Imana.
Mais je vois beaucoup même qui réussissent qui veulent construire leurs empires.
Ariko ndabona benshi nabashika kure bagomba kubaka ubwami.
Qui veulent se faire un nom.
Bagomba ko basiga izina.
Qui quand ils reçoivent quelque chose du Seigneur et qu'ils le donnent.
Bakira ikintu Imana ibahaye.
On veut qu'on parle d'eux.
Ce n'est
pas de nous dont on doit parler. C'est de lui. Toujours de lui. Quand vous avez quelqu'un qui dit servir Dieu et qui est ce qu'on appelle un but de sa personne, c'est-à-dire quelqu'un qui veut tout le temps qu'on parle de lui et qu'on l'admire, cette personne a un problème par rapport à cette parole. Parce que nous ne sommes pas là pour nous montrer nous, mais nous sommes là pour lui donner la gloire. Jésus disait, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça ne veut pas dire que Jésus faisait la vaisselle ou préparait à manger. Il y a de la logistique pour ça. Mais il avait cette disponibilité pour ce que le Père lui disait, pour servir la race humaine. C'est ça, servir Dieu. C'est être disponible. Disponible. Mettre ta vie à disposition de Dieu. Et dire, Seigneur, montre-moi ce que je
veux.
Et je le ferai pour les autres. Ceux qui veulent se servir parmi le peuple de Dieu ne sont pas de vrais serviteurs. Ceux qui pensent à eux en premier et après au peuple de Dieu ne sont pas des serviteurs selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Jésus, sa priorité était de faire la volonté de son Père, sachant que le Père lui demanderait d'aller toucher des vies et de transformer des vies. Jésus le dit ici comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 30. Regardez bien ici maintenant. Afin que vous mangiez, que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis, où ça? Sur les trônes. Ah, assis sur les trônes. Pourquoi? Pour juger les 12 tribus d'Israël.
Entre nanje mbabiki ubwami nkuko data yabumbikiye ngo muze murire munwere ku meza yanje mu bwami bwanje kandi muzokwicara ku ntebe z'icubahiro mucira imanze imijyango y'Abisirayeli uko ari 12.
Donc c'est très clair.
Biraboneka rero biratomoye.
Nous avons déjà un élément de réponse.
Turafise igice kimwe mu nyishu.
Parmi ces 24 anciens,
muri abo bakuru 24.
Bien sûr, il y a les 12.
Harimo 12.
Ceux qui ont suivi le Seigneur, parce que Jésus leur a promis cela.
Abakurikiye umwami kuko Yesu yaramaze kubasezeranira ngaha biraboneka.
Vous allez me dire oui d'accord, mais est-ce que Judas est dedans?
Uwambwira uti none na Yuda arimo?
Et moi je vous dirais bien sûr que non.
Nababwira nti harimo birumvikana
parce que Judas a été en enfer.
Kuko Yuda amaze guhemuka yagiye mu muriro.
Judas est l'exemple typique.
Yuda ni akarorero
de celui qui n'a pas eu de loyauté, du traître, de celui qui n'était pas comme les brebis, mais qui était comme un serpent. Vous savez la différence entre les brebis et les serpents? Les brebis vivent avec les brebis. Les brebis cherchent les brebis et les bergers. Le serpent a un esprit d'indépendance. Il a son plan personnel.
Là.
Toujours en dehors d'un troupeau quelconque, parce que les serpents ne vivent pas en troupeau. Et Judas était un serpent. Judas avait un plan. Un plan B qui était complètement nul et lamentable. Il faisait semblant d'être une brebis. Mais c'était un serpent. Parce que vous ne verrez jamais les serpents vivre en société. Une brebis vit en troupeau. Si elle commence à s'écarter, elle sait qu'elle peut mourir. C'est une brebis inconsciente. Judas n'était pas quelqu'un de loyal. Pierre était quelqu'un qui a fait des erreurs. Mais il était loyal à son Seigneur. Il est évident que Judas n'était pas du lot. Judas n'a pas été au ciel, il était en enfer. Judas a renié Jésus. Il l'a trahi. Et il était en enfer. Et en fait, le 12e, évidemment, on peut largement penser que c'est l'apôtre
Paul.
Rappelez-vous cette histoire. Au début des Actes des Apôtres, où les disciples vont vouloir choisir un autre pour remplacer Judas.
Acte chapitre 1.
Je vais le lire assez rapidement, juste en français, et vous allez rapidement comprendre où je veux en venir. À partir donc du verset 14, il est dit tous d'un commun accord, acte 1, 14, persévérez dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120, et dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit par la bouche de David a parlé d'avance sur Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Verset 18, après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Matthias était un choix humain. Matthias n'était pas un choix divin. Matthias n'a jamais fait partie des 12 apôtres, il n'a jamais reçu d'onction. Matthias, vous n'entendez pas parler dans les Actes des Apôtres après ce passage. Parce que ce sont des hommes qui ont choisi un homme. Avec une prière qui n'avait pas de sens dans le Nouveau Testament.
Vous allez
me dire, comment ça? Absolument. Il faut savoir qu'à cette époque-là, au début des Actes des Apôtres, juste après la résurrection de Jésus, la doctrine de l'Église n'était pas enseignée. La seule chose qu'il faisait, il prêchait l'Évangile, il guérissait les malades, ils amenaient les gens au baptême du Saint-Esprit,
ils
les amenaient au baptême d'eau. Il leur donnait un enseignement très basique qu'ils avaient reçu du Seigneur Jésus lui-même. Mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas l'intelligence et la compréhension du royaume de Dieu dans la nouvelle alliance concernant l'Église. C'est Paul qui, plus d'une dizaine d'années plus tard, même un peu plus que ça, entre une quinzaine et une vingtaine environ.
Il
va recevoir sa fameuse révélation qui nous décrit dans 2 Corinthiens 12. Et là, Dieu va lui donner le mystère de l'Église, la révélation sur le mystère de l'Église. Et quand on lit l'Épître aux Éphésiens, Paul dit lui-même qu'il a reçu par révélation ce qu'il vient d'écrire en peu de mots. Et qu'en fait, il transmettait ça. Parce qu'il avait eu ordre d'écrire. Pierre, même dans une de ses épîtres, dira que Paul a reçu une sagesse qu'il écrit. Et dont beaucoup tordent le sens. C'est-à-dire qu'ils prennent des choses que Paul a écrites et ni plus ni moins ils tordent le sens. Pierre reconnaissait Paul comme une autorité concernant la doctrine.
Et
pour clôturer juste ce sujet des douze, dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, il nous est dit la chose suivante. Éphésiens 2 20, il est dit: vous avez été édifiés ou construits littéralement sur le fondement, la fondation des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire.
Kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana.
Et ces apôtres et prophètes dont il est parlé ici sont bien sûr les 11 plus Paul, 12, qui ont écrit, qui ont prêché, qui ont enseigné. Et certains étaient à la fois apôtres et prophètes. C'est pour ça ici qu'il est dit apôtres et prophètes. La prochaine fois, nous essaierons de découvrir qui sont les 12 autres. Les 12 autres anciens. Et nous verrons l'élément de réponse que nous avons dans la parole de Dieu. Et nous verrons que nous n'avons pas autant de lumière que sur les 12 premiers, entre guillemets, des 12 apôtres.
Que
le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.